19h23, votre grand journal du soir se poursuit avec les grandes voix d'Europe 1, Mathieu Belliard.
Et ce soir, j'accueille en studio Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Ça va Michel?
Ça va.
Bien, Catherine Ney est avec
Bonsoir.
Nous aussi. Bonsoir Catherine. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu en studio.
Beaucoup
avec nous.
Beaucoup trop
Catherine.
Longtemps, oui.
Beaucoup trop longtemps. Alors que Gérard, je l'ai vu il y a deux jours.
Oui,
comment
oui,
ça
j'ai
va,
l'impression
Gérard,
que je me suis réveillé ici.
Les grandes voix ce soir. Et nous allons d'ailleurs reparler immédiatement de Donald Trump. La situation avec l'Iran, à quoi joue Donald Trump? À quel jeu jouent les Iraniens? Cette situation de tension, est-ce que c'est du bluff ou est-ce que, comme le dit Donald Trump, on était à 10 minutes de la guerre? Qui veut commencer, Catherine?
Moi, je pense qu'il y a quand même un peu de bluff. Hein. Bon, d'abord, il y a ce drone qui a été descendu par les Iraniens. Bon, moi, je pense que les Américains, ils inspectent, quoi, ils volent au-dessus de l'Iran. Et peut-être que même, il y en a eu d'autres qui n'ont pas été
interceptés
ou repérés. Et que là, bon, le drone était vraiment survolé l'Iran. Donc, il est démoli. Trump a commencé à dire que c'était une énorme erreur. Bon, alors on commence à trembler. Faite par quelqu'un de stupide. Alors déjà, c'était... Yeah, bon, ça commençait avec
un peu d'insulte
aussi
pour,
pour l'État. Bon. Et puis après, il a montré qu'il allait réagir et que tout était prêt. Les avions de chasse avaient décollé pour sur trois sites. Et 10 minutes avant... Alors, 10 minutes avant la frappe, il demande à un militaire, au fait, est-ce qu'il va y avoir des morts? Non, 150, donc on arrête. Vous pensez bien qu'il avait demandé avant. Donc, c'est un coup de com' extraordinaire. C'est pas possible de croire qu'il lance et qu'il arrête d'un coup.
Ouais,
qu'il pose
Michel
cette
Cotta.
Question.
De com' ou quand même de négociation
avec
l'Iran sur l'endroit où était tombé le drone, puisqu'on voit que l'Iran donne une version différente de celle du président des États-Unis.
Ouais.
C'est-à-dire que pour l'Iran, il est tombé sur les eaux territoriales, tandis que pour Trump, sur les eaux internationales. Donc, il pose un problème. Et puis, il y a sûrement eu des négociations à un moment donné, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'à force de pousser toujours les trucs trop fort, à force de jouer les matamores, quoi, quelque part, ça fait le docteur faire l'amour. On a l'impression que détourner des avions 10 minutes avant la fin... Alors, je ne sais pas si ça le sert ou pas, mais ça, sans doute, Gérard, c'est mieux que nous. Si en Amérique, ça le sert...
Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Trump,
franchement dans son... non, mais ça le sert...
On a du mal à croire, quand même. Alors, il y a l'idée du bluff, non. De la com', il y a l'idée de... On est dans un combat de nerfs aussi. Ça, on l'entend, mais... J'ai pensé exactement à Dr. Folamour, mais j'ai quand même du mal à croire que le président des États-Unis décide comme ça, sur pile ou face, un coup de fil. Ah bon, il y a des morts, j'y vais pas. Non, mais ça paraît hallucinant.
Écoutez, Trump, on dit qu'il n'a pas beaucoup de convictions, mais il en a une extrêmement forte et qui date d'il y a 40 ans. Il a une haine absolue pour le régime des Mollahs. Et vous savez sur quoi? Et il en parle à chaque fois qu'il en a l'occasion, aussi bien aux généraux de son entourage, puisqu'à un moment donné, il avait fait monter un certain nombre de généraux 5 étoiles à la Maison-Blanche. C'est l'affaire de Beyrouth 1982. Vous vous souvenez, Beyrouth 1982, il y a eu deux attentats terribles. Un contre les soldats français, il y a eu 58 ou 59 morts au camp du Drakkar. Et à côté, il y avait le camp des Américains, il y a eu 280 Marines qui sont morts. 280 Marines. Depuis cette époque, il y a une volonté. Et ça, c'est, à l'époque, par exemple, l'un des généraux qui entoure Trump était commandant à Beyrouth. Ils ont dans la tête, ils veulent se venger. Donc, je reviens là, à l'affaire d'aujourd'hui. Il y a cette conviction forte et il y a l'idée qu'il faut absolument matraquer, taper sur la tête des Iraniens pour les mettre à genoux. Il y a eu les sanctions, et puis les re-sanctions, et puis maintenant... Donc, mon interprétation, c'est que il y a eu un coup de gesticulation. Vous savez, il avait menacé le Coréen qu'il appelait Rocketman, il l'avait menacé en disant « Ah, tu veux jouer avec tes petites bombes, mais nous, on a des beaucoup plus grosses. » Bon, il n'a pas pour autant envoyé les bombes sur la Corée. Je crois que là, il y a une grosse gesticulation, parce que l'histoire, vous avez raison, Michel et Catherine, il n'a pas découvert que ça pouvait faire quelques morts, et à la limite, je dirais, quand on fait un coup comme ça, on s'en fiche un peu des 150 morts.
19h27. C'est du pragmatisme, mais c'est assez vrai. C'est ça qui rend le truc assez surprenant. Le débat,
c'est...
Le débat qui continue avec les grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou. On va continuer à parler de Trump et de l'Iran. Restez bien sur Europe
1. 17h30, la suite de notre débat dans votre grand journal du soir. Nous sommes avec Mathieu Béliard, entouré de ces grandes voix d'Europe 1, Gérard Carrérou, Catherine Ney et Michel Cotta.
Michel, on continue de parler ce soir de la relation entre les États-Unis et l'Iran, de la situation en ce moment dans le Golfe. J'avais Thierry Coville comme invité hier, qui est un grand spécialiste de l'Iran et qui parlait de Donald Trump comme qu'il avait essayé de faire la... Il expliquait qu'il avait essayé de faire la même chose en Iran que ce qu'il avait fait en Corée du Nord, justement, pousser la négociation, ce qui n'a pas marché avec le régime iranien.
Moi, je pense aussi que depuis le début, il y a une option Trump pour faire tomber le régime de l'intérieur, c'est-à-dire pour assécher les dirigeants, pour priver l'Iran par les sanctions, etc. Et donc, c'est vrai que ça peut être une stratégie politique intéressante. On fait tomber... Il y a un moment donné où le régime sera insupportable aux Iraniens. Mais quand on tape sur quelques cibles, au contraire, on réunit tout le monde contre soi. C'est-à-dire que c'est complètement contraire à la stratégie qu'il a manifestée depuis le début. Donc je me demande si ce n'est pas ça, finalement, qui est au-delà des gros bras, a fait qu'il a renoncé à l'attaque frontale.
Oui, je crois que, Michel, tu as raison, là. Je crois qu'il joue beaucoup sur... ils ont des renseignements, quand même, assez intéressants sur l'opinion publique iranienne, et notamment sur ce qu'on appelle le bazar. Vous savez, le bazar, c'est en fait, ça veut dire tous les commerçants, ce qui est le poumon économique de l'Iran. Et les sanctions, depuis les deux trains de sanctions, ont complètement mis à genoux les gens du bazar. Ils ne travaillent plus, il n'y a plus de...
Et les gens du bazar et la population iranienne.
Et la population autour, eux qui étaient, disons, la bourgeoisie, eux qui étaient la classe moyenne, la bourgeoisie, sont véritablement aujourd'hui laminés. Donc, les Américains se disent peut-être que si on tape encore un peu plus fort, peut-être on va provoquer une sorte de révolution. Et là, ils se trompent peut-être parce que la population est tellement encadrée par les pasdaran, par les milices patriotiques, etc., que même si les gens sont écœurés, sont pauvres, sont appauvris, je ne les vois pas se dresser dans la rue.
Une attaque qui fait périr 150 Iraniens crée forcément une union nationale.
Alors qu'il faut le contraire, le grand classique, Catherine.
Non, mais aujourd'hui, les Iraniens, là, j'ai eu des témoignages de gens. Ils passent la journée à chercher des produits de première nécessité, que ce soit des médicaments, du café, pour se nourrir et tout ça. Donc, quand une population est obsédée par le vivre tous les jours pour manger, je vous dis, ils n'ont pas tellement envie de faire la révolution tout de suite. Et donc, ils font plutôt chorus avec des gens dont ils ont par-dessus la tête. Donc, peut-être qu'à terme, ils peuvent changer en disant c'est peut-être de leur faute. Mais ce que voudrait Trump, c'est faire la pression maximale pour que l'Iran réduit ses ambitions nucléaires et surtout limite son influence régionale. Alors je voyais qu'aujourd'hui, il s'est entretenu sur la question iranienne avec le prince héritier saoudien, là, le tueur du journaliste. Oui. Donc, mais il faut bien voir que les Iraniens, qui sont quand même un pays d'une grande culture, prennent les Saoudiens, pour eux, sont des ennemis. C'est des ex-bergers de chèvres, enfin des bédouins qui ont fait fortune avec le pétrole. Et c'est le mépris total pour les Saoudiens. Donc,
dans l'alliance, il faut jamais oublier que dans cette alliance stratégique au Proche-Orient, l'Amérique est flanquée de deux côtés. Il y a d'un côté Israël qui pousse depuis des années, qui pousse à un conflit de manière qui recommence actuellement parce qu'ils veulent liquider eux effectivement la menace nucléaire venant d'un éventuel Iran qui est la bombe. Et puis il y a les Saoudiens évidemment, Catherine, les Saoudiens c'est les sunnites contre les chiites. L'Iran, c'est la Mecque des chiites, des musulmans chiites, et les autres, les Saoudiens, c'est la Mecque des autres. Donc, effectivement, c'est la guerre de
l'Iran. Mais parce qu'il y a plein d'acteurs, il y a l'Arabie Saoudite, on en a parlé, Israël, effectivement, Vladimir Poutine, qui réagissait aussi hier depuis la Russie. L'Europe, où est-ce qu'on est?
Justement, elle est nulle part, pratiquement.
Là, pour le coup, elle est nulle part.
On la verra à l'ONU, peut-être, mais...
Mais surtout, ce qui est important à dire, c'est qu'on n'attaque pas l'Iran, on n'attaque pas l'Iran comme on a attaqué l'Irak. Mais... c'est pas possible. L'Iran, c'est une grande civilisation. C'est un peuple, une nation, tandis qu'on sait très bien que l'Irak a toujours eu des problèmes avec la Syrie. Parce que c'est
millénaire d'histoire,
bon,
l'Iran.
Donc c'est on n'attaque pas l'Iran. Et ça, je suis pas sûr que Trump ait cette notion de différence entre des civilisations qui sont éloignées, comme celle de l'Iran, même s'il y a des mollahs maintenant, et la civilisation bédouine, effectivement, d'Arabie Saoudite. Je ne suis pas sûr qu'il sache faire une différence là-dessus. J'espère qu'il a des conseillers qui savent.
Bon, il faut espérer que ça se calme, que tout ça, c'est du bluff, de la négociation aussi, mais je repose ma question.
En attendant, ça fait monter le pétrole.
Oui, c'est sûr. Alors, l'impact,
et donc,
alors...
l'impact est quand même
énorme. Ah non, mais vous, des millions de barils, des millions de litres qui passent par justement cette zone précisément. C'est
non, mais l'Europe, oui. Vous posez la question de l'Europe, à part d'aller à l'ONU, à la réunion probablement de lundi, où la France a son siège et où la Grande-Bretagne a le sien, où elle peut donc faire entendre sa voix, mais autrement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, on a bien quelques rafales à Abu Dhabi, si je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs, il y en a peut-être 2 douzaines, mais ce n'est pas avec ça qu'on va changer la situation.
De toute façon, on
n'a
pas fait déclarer la guerre à l'Amérique.
Non, a priori pas encore.
Ce serait surprenant. Des compagnies aériennes ne survolent plus étroitement.
Sauf Air France qui passait pas par là. Mais Air France ne passe jamais par là, donc Air France n'a pas eu à annuler ses vols.
19h36.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, le débat qui continue avec les grandes voix. À tout de suite.
Et on retrouve Mathieu Béliard et les grandes voix d'Europe 1 pour la suite de notre débat. C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Ce soir, avec nous, Catherine Ney, Michel Cotta et Gérard Carrérou.
Le débat qui continue pour quitter le terrain iranien quelques instants, mais quand même en parler à travers cette déclaration de lancement de campagne de Donald Trump en milieu de semaine. Gérard, est-ce que la situation dans le Golfe, est-ce qu'elle peut servir ou desservir Donald Trump?
Alors, je crois qu'il n'a pas... Pour le coup, l'opinion américaine n'a aucune envie de voir une guerre. Ça, c'est clair. Globalement, démocrates et républicains, personne aujourd'hui n'a envie de faire la guerre. Donc, je pense qu'il a probablement intérêt à désescalader. Bon, on le verra lundi. Mais je ne crois pas que ça le servirait de déclencher. Parce qu'au fond, il a fait le contraire. Depuis 2 ans qu'il est président, il a dit Obama avait envoyé des troupes partout. Et puis moi, je ramène les boys à la maison. Et il l'a tenu aussi bien pour l'Afghanistan que pour l'Irak, etc. Donc là, je le vois mal entamer une guerre, qui aura quand même une guerre avec, comme vous l'avez souligné, c'est pas une puissance de deuxième zone. L'Iran, c'est quand même un grand pays, une grande puissance. Ils ont des moyens importants. Donc je vois pas une guerre.
Le message aux Américains, c'est que lui-même, il prépare cette riposte contre les Iraniens sur 3 sites, et il arrête 10 minutes avant, et puis qu'est-ce qu'il dit dans son dernier tweet? Que c'était disproportionné par rapport à une attaque contre un drone. Donc, il veut montrer aux Américains, regardez comme je suis raisonnable.
Ça fait cafouilleux, mais sur un sujet quand même qui est celui de la guerre mondiale.
Parce qu'on dit que la multiplication des incidents fait craindre une étincelle qui met quand même le feu.
Parce que l'Iran et la Russie, il y a des problèmes quand même. On peut penser que si on attaque l'Iran, il y a des réactions en cascade partout qui peuvent menacer la paix dans le monde.
Pour la paix dans le monde, oui, mais je posais aussi la question de l'opinion américaine. Pas envie d'être en guerre, les Américains, ils ont aussi un réflexe de se ranger derrière le chef.
Oui,
ça, c'est quand même, ça s'est déjà vu.
Vous savez, depuis l'affaire des otages de l'ambassade américaine, que j'ai évoqué un truc qui était Beyrouth, mais on pourrait aussi parler des otages américains. Depuis 40 ans, les Américains ne peuvent pas les sentir, les Iraniens, c'est clair, ils ne peuvent pas les sentir. Donc, l'opinion, d'une certaine manière, elle trouve qu'il vaut mieux taper sur la table. Mais de là à soutenir des hostilités armées, je ne crois pas que le peuple américain aujourd'hui soit sur cette ligne-là, enfin en tout cas dans ces grandes masses.
Non, c'est sûrement un calcul que doit faire aussi Donald Trump, qui lance sa campagne cette semaine, et il ne peut pas désolidariser en quelque sorte campagne de l'Iran.
Sur cette campagne... Elle est lancée depuis cette semaine. Il faut rappeler qu'il y a 500 jours, hein, il y a un an et demi avant le scrutin. Vous avez suivi l'entrée en campagne de Trump. On en a parlé mercredi avec Gérard. Un petit air de 2016, quoi. Enfin, en l'occurrence, de son lancement en 2015.
Oui, oui, c'était à peu près les mêmes slogans. Et c'est plus American Grace Again, mais qu'elle reste grande.
Keep,
voilà.
Oui, keep, voilà,
keep.
J'ai réussi mon pari.
Mais c'est vrai, d'une certaine manière, il a tenu la plupart de ses promesses, à part le mur qui n'est toujours pas construit. Mais c'est vrai, sur l'économie, en ce moment, je veux dire, la croissance, sur l'emploi, c'est, je veux dire, les Américains, ils ne sont pas malheureux en ce moment. Ils sont plutôt optimistes. Les salaires augmentent. Donc c'est un, alors qu'ils n'avaient pas augmenté pendant la présidence Obama, donc ils sont plutôt contents parce que, et les salaires ont augmenté parce qu'il a réduit singulièrement les charges des entreprises, donc il fait une politique qui est quand
et
même très proposée. Oui, c'est ça,
et les impôts fiscaux, oui,
les prévisionnistes,
les entreprises sont dynamisées,
voilà.
Mais dans les sondages, alors certains, j'entends des commentateurs français toujours disent oh, il est pas terrible dans les sondages, parce qu'il y a eu un ou deux sondages où on voyait que s'il était en face d'un candidat il pourrait être battu, Joe Biden notamment, il pourrait être battu. Sauf qu'il a toujours 42% de popularité. Vous savez, dans le monde, il n'y a pas tellement, dans les démocraties, il n'y a pas tellement de présidents qui peuvent se targuer d'avoir 42% de popularité.
C'est-à-dire que ce qui nous paraît quand même énorme, parce que ce personnage nous paraît quand même énorme, démesuré, pas fiable, et ben, après tout, les Américains s'en sont très bien contentés, s'en contentent bien.
Mais surtout quand on voit les reportages en Floride où on est interviewé des gens qui l'attendaient comme le Messie, qui ont fait la queue sous le soleil pendant des heures pour le voir absolument. Mais on les a interviewés, ils avaient une violence en eux, une façon de parler qui fait que lui ressemble à ses électeurs et ses électrices.
Oui, c'est
donc c'est, il colle c'est totalement à cette Amérique-là.
C'est là qu'il avait surpris pour sa première élection. C'est qu'il était complètement hors code classique de la campagne. Il a parlé à des gens qui n'allaient plus voter et qui se sont reconnus.
Et on ne l'a pas vu venir, parce que notamment la presse. La presse française, enfin la presse européenne ne l'a pas du tout vu venir. Et même nous, je suis persuadée que le matin où on a annoncé le matin où on a annoncé que c'était lui qui était élu, puisqu'on s'était endormi à 2h du matin alors que c'était Hillary, c'est vrai que ça fait un choc pour la terre entière.
Oui, mais qu'elle avait 3 millions de voix de plus que lui.
Oui, en plus qu'elle a eu 3 millions de
voix. Ça, c'est le mode de scrutin américain. Oui. je vois Gérard qui connaît très bien la situation américaine.
Il y a des moments où je me dis, au fond, qu'est-ce que c'est que l'électorat de Trump en Amérique ? C'est évidemment pas le prof qu'on connaît de sciences politiques à Harvard, ou l'intellectuel new-yorkais à la Woody Allen. C'est les gilets jaunes à l'américaine. C'est une forme. C'est ces classes moyennes qui ont l'impression qu'elles dégringolent, et que les usines ferment autour, et que les États se dépeuplent, etc. C'est cette Amérique-là qui vote pour lui.
Et qui trouve que ça va un peu mieux.
Et elle trouve que ça va un peu mieux depuis 2 ans, donc elle risque. Elle peut ou elle risque, selon qu'on l'aime ou pas, elles peuvent revoter à nouveau.
Et
pour
puis
lui.
Il n'a plus Barack Obama, son bilan, ou Hillary Clinton, son adversaire, pour taper dessus. Il peut continuer à taper sur les médias allègrement.
Oui. Ça, et plus il tape sur les médias, et plus ça marche. Parce qu'il y a, il y a aussi ce mouvement qui est. Les gens se sont retournés contre les grands médias.
Les CNN, les New York Times, etc.
Il a attaqué toutes les institutions américaines, les juges, le FBI, la CIA, et finalement, les Américains ont l'air contents.
Il est porté par un courant, forcément.
Il ose s'attaquer aux institutions américaines.
Nous verrons, parce qu'il faut faire attention.
Oui,
on s'est trompé
allègrement
la dernière fois. Puis, on va faire attention, il reste un an et demi.
Mais oui,
son adversaire.
Il peut sortir, Michelle Obama peut sortir de son... On dit qu'elle ne sera jamais candidate. Mais moi, je pense que c'est aujourd'hui la seule qui pourrait le battre.
Parce qu'il y a une nostalgie de Barack Obama ?
Parce qu'elle pourrait combiner le fait que c'est une femme, qu'elle est nouvelle, qu'elle a quand même une expérience d'avoir été la femme de Barack Obama. Et ça pourrait jouer. Mais bon, pour l'instant, elle dit qu'elle ne veut pas. Mais attendez qu'on se rapproche.
Et qu'ils viennent la supplier de venir. Non, Catherine, un pronostic, Michelle Obama. Pas là, en tout cas. Non, Michel Cotta. Pas plus que... On verra. Gérard, on pourra dire que Gérard l'avait dit. On pourra dire que Gérard l'avait dit le 21 juin 2019.
La seule chose qu'on sait, c'est que son livre marche mondialement.
Oui, mais vous savez, il y a des grands qui ont eu des livres qui marchaient et qui ont été un peu déçus.
Même que les gens faisaient la queue pendant 3 heures pour la signature, et puis voilà.
Et quelque chose me dit qu'on va en reparler dans quelques instants. 19h44. On revient en France, effectivement. Avant de parler de ses succès de librairie, nous allons évoquer Brigitte Macron aussi. Faites de la politique, la Première Dame. A tout de suite sur Europe 1.
8 ans moins le quart, suite et fin de notre débat sur, dans votre grand journal du soir, autour de Mathieu Belliard, les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Catherine Ney et Gérard Carrérou.
Nous allons parler de Brigitte Macron qui donnait une interview. J'ai toujours pensé qu'Emmanuel Macron serait écrivain, le temps lui rendra hommage. Il y a tout un tas de phrases comme celle-ci, celle que je viens de vous donner. Puis il y a aussi un petit peu de politique. Est-ce que la Première Dame fait de la politique, Gérard Carrérou?
Évidemment qu'elle en a fait hier. Et moi, ça me choque. Bon, jusqu'à présent, je crois que j'ai souvent, parfois, dit des choses désagréables sur la politique du président Macron. Mais bon, sa femme, je dirais, j'avais jamais de raison de dire quoi que ce soit de désagréable. C'est une femme charmante. Bon. Mais effectivement, là, je trouve qu'elle est sortie de son rôle. Elle est sortie de son rôle. C'est pas dans nos institutions. On n'élit pas un couple, on élit un homme ou une femme. Mais on n'élit pas un couple. Et deuxièmement, alors franchement, le numéro de « il n'avait pas vu venir ceci, il n'avait rien vu venir », mais par contre, il n'y a pas eu de, pratiquement de aussi grand écrivain depuis Flaubert. Je trouve que c'est un peu... C'est de la com. Non, c'est
là,
de la com.
Tu caricatures un peu.
Non, mais c'est de la com.
Tu caricatures un peu. Je crois d'abord, chaque dame, chaque...
Première dame.
Non, mais on ne dit pas première dame, mais chaque dame a son petit tintement particulier. Alors, on sait qu'il y a des femmes qui ont toujours détesté la politique. Ça a été le cas de Claude Pompidou et de la femme de Giscard d'Estaing. On sait, en revanche, que Madame Mitterrand était finalement plus à gauche que François Mitterrand et qui défendait défendait les Kurdes. Et là, en effet, elle faisait de la politique et de la politique extérieure sur le domaine réservé du président.
Fidel Castro et le sous-commandant Marcos. Voilà, c'était ses grands,
donc on voit très bien. On voit que, Carla Sarkozy est restée égale à elle-même au fond. Elle était une vedette et elle est restée au contraire derrière au deuxième plan. Et là, bon, c'est vrai que je pense que. Il n'y a pas seulement en parlant hier qu'elle a fait de la politique, mais je pense que c'est en se déplaçant aussi.
Ah oui, Lyon-Marseille, par exemple.
Lyon-Marseille, alors on voit que Lyon, c'est naturellement... Elle a pardonné au maire de Lyon, avec lequel d'ailleurs elle était beaucoup plus proche que son mari. Pour le coup, Gaudin...
Oui, mais lui en avait beaucoup voulu aussi.
Jean-Claude Gaudin, on ne sait pas ce que ça représente, mais c'est-à-dire, dans la mesure où à Marseille, on se dit, est-ce que La France En Marche va rentrer sur la liste de Gaudin, ou est-ce que le Gaudin va rentrer sur la liste En Marche, c'est vrai que c'est une façon de faire un peu à la politique. En revanche, je trouve que hier, c'est plutôt une présence et une présence amicale pour son mari. Un peu trop.
Catherine,
un peu longuette et appuyée.
Il ne vous a pas échappé que, d'abord, elle s'occupe d'éducation avec... Monsieur le ministre Blanquer, donc elle va souvent visiter des écoles, et quand elle visite des petites villes et des écoles, le maire est là, et ça ne fait pas autant d'effet que quand c'est...
Bon,
c'est le boulot habituel. En plus, elle va beaucoup se déplacer, puisqu'elle succède à Madame Chirac, à la Fondation Hôpitaux de Paris, et Pièces Jaunes Hôpitaux de France. Donc elle va faire tout un... Et à chaque fois qu'elle arrivera dans une grande ville, le maire, qui sera candidat ou pas à réélection dans quelques mois, va l'accueillir. Bon. Donc, elle fait de la politique comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, mais elle en fait quand même. Quoi.
Tandis que Bernadette Chirac faisait de la politique.
Oui, mais là, elle est allée au-delà. Elle a défendu sur un certain nombre de points, que je ne reprends pas pour ne pas être long, elle a défendu
des priorités.
Et elle a donné même des priorités. C'est incroyable, comme si elle était partie prenante à définir les priorités.
Je
trouve que elle a poussé le bouchon.
Quand Bernadette Chirac intervenait de cette façon-là, et ça lui est arrivé, ne serait-ce que parce qu'elle était élue, personne n'a trouvé que c'était une intervention trop présente.
Elle était élue,
mais alors s'il faut que la femme d'un président soit élue, ça change. Non, pour pouvoir parler.
En plus, quant à Flaubert, franchement, moi j'adore Flaubert.
Et
je vous renvoie
bon, on le sort.
La correspondance. Non, mais je veux dire, Flaubert.
Je pense que Flaubert, c'est pas passé.
J'ai découvert hier soir que. Je me suis précipité sur la correspondance de Flaubert pour relire des trois trucs, pour me dire est-ce que vraiment, est-ce qu'il m'a échappé que les discours de Macron étaient du même niveau que la correspondance de Flaubert, quoi.
Qu'elle est son avocate, et l'autre jour, je discutais avec un quelqu'un du groupe d'En Marche, qui voit souvent Emmanuel Macron à l'Élysée. Il dit de toute façon, quand on les voit, le couple Macron, je le cite, hein, dévore tout parce qu'ils sont autosuffisants. C'est un couple qui parle tout le temps, le soir, tard. D'ailleurs, elle dit, on dîne à 23h le soir et puis ils se couchent à 2h du matin, ils travaillent tout le temps. Donc, elle le met... Et quand on déjeune avec elle, ce qui nous est arrivé une fois, on le dit, bon, très bien, elle prend des notes sur tout ce qu'on peut lui dire. Et donc, elle lui fait passer des messages, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire.
Et quand, Catherine disait, je trouve qu'il est un peu trop long, il disait, oui, je vais lui dire.
Oui, oui. Et donc elle est son conseiller, son premier conseiller en communication. Il la regarde et on déjeunait avec elle. Et comme par hasard, il est venu alors qu'il avait le président irakien qui déjeunait à l'Élysée. Donc on voit que c'est quelque chose de très fusionnel. Quand elle dit que c'est très fusionnel, c'est vrai.
Mais d'ailleurs, alors, pour raconter dans l'anecdote, les maîtres d'hôtel d'un grand restaurant parisien où il a l'habitude d'aller, où il a fêté, je vous rappelais, ce premier tour, je ne donne pas le nom.
Oui,
vraiment,
bah, tout le monde sait que c'est la retour. Ouais, ben,
alors, le maître d'hôtel confie qu'il est prévenu généralement une demi-heure avant, qu'il fait le vide absolument dans un coin de la salle, mais qu'il dîne tous les deux, sans personne, sans amis, tous les deux. Bon. Autosuffisant.
Il nous reste deux, trois petites minutes, chère Grande Voix, pour évoquer, puisqu'on parlait de succès en librairie, on a parlé de Gustave Flaubert. Nicolas Sarkozy va sortir un livre la semaine prochaine.
Passion.
Non, mais il n'a pas cette ambition-là. Voilà.
Passion au pluriel.
Voilà. Oui. Vous fait dire.
Catherine.
Ben, il avait déjà écrit un livre. Enfin, c'était un question-réponse avec notre ami dont j'ai oublié le nom, mais qui présentait les émissions sur Canal+, Deniso, voilà. Et ils avaient fait, ça s'appelait Passion, et il y avait déjà le mot passion au singulier. Là, c'est passion au pluriel, et il va raconter, d'après ce que j'ai compris, sa vie de son début en politique jusqu'à 2007. C'est-à-dire que ce n'est pas le bilan de son quinquennat.
C'est la période de Chirac.
Et notamment, c'est ça, le moment où Chirac et Balladur s'entendaient encore.
C'est ça qu'il va raconter, vous le lirez.
Je sais que personnel, la façon dont il s'est adressé quand même. Je vous rappelle que la première fois où il a parlé dans un congrès, c'était à Nice, il avait 20 ans, 22
ans. Oui, 75, oui.
Gérard.
Oui, on va lui reprocher, je ne sais pas si je lui reproche moi-même ça, mais on va dire qu'il ferait mieux de se tenir un peu tranquille en attendant que les affaires judiciaires viennent, ça va venir bientôt, que d'aller faire un bouquin et la promotion d'un bouquin. Parce que quand on fait un livre, on fait la promotion du bouquin.
La meilleure défense, c'est l'attaque.
Ouais. Mais ces hommes politiques ne peuvent pas s'empêcher de temps en temps de sortir des livres. Alors bon.
Mais vous croyez qu'on va avoir une tournée croisée où Nicolas Sarkozy, François Hollande s'éviteront dans les FNAC
François Hollande, c'est vrai qu'il a ça très bien marché.
Mais il continue.
Il continue
ses tournées de dédicaces.
Les libraires vont choisir, les libraires vont devoir faire de la politique.
C'est ça, peut-être feront-ils des séances de dédicaces communes. Bon, moi je... Je vous conseille votre livre, hein, Catherine. Quand on a envie de savoir la vie de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas besoin d'un nouveau livre.
Je suis presque vexée. Qu'est-ce qu'il y a besoin de raconter, j'ai tout dit.
Exactement. On va rester là-dessus, mes chères grandes voix, en vous remerciant une nouvelle fois. Gérard, je vous souhaite de bonnes vacances.
Et oui, je vais bientôt partir.
Parce qu'il y en a qui partent en vacances plutôt que d'autres.
Je ne vais pas en vacances, je vais écouter Trump.
Il va en reportage. Gérard, il va en reportage. Il va s'imprégner de la société américaine. Et à la rentrée, tiens, vous nous direz dans quel état d'esprit ils sont.
Absolument.
Nous verrons quelle sera l'évolution de la situation, évidemment avec l'Iran aussi. Michel Cotta, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vendredi prochain, c'est sûr, Michel. Ça, c'est sûr. Mais où, je ne sais pas encore. Est-ce que c'est dans ce studio ici ou est-ce que c'est à côté du Parc des Princes? Si les filles se qualifient dimanche soir, on va vous proposer une belle spéciale pour le quart de finale vendredi prochain. Michel est fan de l'équipe de... Non mais c'est vrai, vous l'avez dit ici même la semaine dernière. Ancienne gardienne de but, Michel Cotta. Ah, ça vous le saviez pas, je vous en apprends. Catherine Ney, bon week-end, demain matin avec Bernard Poirette.
Absolument, avec
merci
plaisir.
Merci à vous trois, mes chères grandes voix. Europe 1.